L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Et ben, toujours en direct de Laval où il a fait 1 degré ce matin quand je suis arrivée, donc un peu frais là quand même, mais du soleil donc ça va.
Ah oui, donc là on a dit, on était précis sur la météo, donc c'est parfait, on a le petit degré qui va bien. En tout cas, effectivement, le froid ne va pas nous empêcher, évidemment, de poursuivre cette émission et même de la commencer, ce serait bien déjà, avec les premiers vaccins qui sont arrivés hier au centre hospitalier de Laval. Nous verrons qui va en bénéficier en priorité. Laval Mayenne Technopole accompagne une nouvelle start-up qui s'appelle Un Match. Elle vise à faciliter l'organisation de compétitions pour les clubs de foot et peut-être d'autres clubs sportifs. Et puis, vous découvrirez en fin d'émission quels sont les moyens utilisés pour dater un fossile. Évidemment, on donne quelques petits indices pour dater ce fossile.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Les chiffres de la Covid ne baissent pas encore en Mayenne.
Et oui, selon les dernières données de l'agence publique, de l'agence régionale de santé, le taux d'incidence s'établit à 85,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité s'établit à 4,5% et le nombre d'hospitalisations stagne à 91 personnes. 6 Mayennais sont toujours en réanimation.
Un nouveau dojo à Château-Gontier d'ici 2022.
C'est un projet porté dans le cadre de la reconfiguration du parc des sports à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le nouveau dojo se trouvera derrière l'espace de tennis et sa mise en service est prévue au troisième trimestre 2022 pour un budget total de 2,2 millions d'euros. La capacité d'accueil doublera dans ce dojo. Elle passe de 300 mètres carrés à 600 mètres carrés. Ce nouveau complexe est un argument de poids pour l'accueil des délégations pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
Deux fois moins de mariages en 2020.
77 mariages ont été célébrés à Laval cette année contre 139 en 2019. La faute évidemment au confinement qui a conduit au report voire à l'annulation des cérémonies. Le nombre de Pax lui est aussi en diminution à 123 contre 156 auparavant. Dans le département, les naissances ont baissé de 2% et parmi les bébés nés en 2020, les prénoms Louis, Mohamed, Jules et Marius ont la cote et chez les filles, c'est plutôt Louise, Adèle, Agathe, Aïcha et Ambre.
Et c'est la fin des illuminations de Noël à Laval.
Ah oui, chaque bonne chose a une fin, décidément, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. On va y arriver. Les 25 km de guirlandes seront décrochés petit à petit jusqu'à mi-février. Ça a déjà commencé. Et ce mercredi, le pont Aristide Briand est fermé à la circulation cet après-midi de 13h30 à 16h30. Les rues de Gaulle et la rue des Déportés seront également coupées à partir de 20h. Et puis la rue de la Paix sera elle aussi coupée, mais à partir de 21h30.
Et question très importante, où trouver la meilleure galette du département ?
Et oui, c'est effectivement la période des galettes des rois et la Fédération des boulangers de la Mayenne a distingué plusieurs artisans du département. Dans la catégorie galette briochée, c'est la boulangerie Jules à Laval qui remporte la première place. Si vous préférez la frangipane, rendez-vous à la boulangerie La Petite Germinoise à Saint-Germain-le-Fouillou qui s'est elle aussi illustrée. Le classement est disponible sur la page Facebook de la Fédération des boulangers 53. Et puis on prend la route du Vendée Globe où ils sont désormais 12 skippers et même un peu plus à avoir franchi le Cap Horn. Maxime Sorel est toujours 9e sur son bateau VNB Mayenne au large des îles Malouines.
Marie, les premières doses du vaccin contre la Covid-19 sont arrivées hier au centre hospitalier de Laval.
Oui, il y a 4875 doses pour être précis. Elles sont conservées dans le super congélateur à l'hôpital de Laval qui les conserve à moins 80 degrés. Début des vaccinations demain jeudi, mais qui sera prioritaire ? Réponse avec Sylvie Lequeau, la directrice adjointe du centre hospitalier de Laval.
Ce ne sont pas des doses pour nos simples résidents, c'est pour tous les établissements, les EHPAD du groupement hospitalier de territoire. Donc ça, c'était la priorité 1. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les formes sévères sont en lien direct, en corrélation directe avec l'âge. Ces résidents sont à risque de formes graves. Et puis en plus, ils vivent en collectivité. Donc il est important de les protéger le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on reçoit un certain nombre de résidents dans nos services de médecine et de réanimation. Pour nos établissements GHT, on doit être à peu près 1000 résidents. Alors ça, c'était la priorité. A été ajoutée la priorité des soignants, des personnels soignants. Donc tous les soignants de plus de 50 ans ou à risque de développer des formes graves, compte tenu d'autres pathologies, hein, sont considérés désormais comme prioritaires. Il faut donc leur proposer la vaccination le plus rapidement possible. Alors, de la même manière que nous avons été approvisionnés pour les EHPAD des établissements du GHT, le centre hospitalier de Laval, il est approvisionné pour tous les personnels soignants de la Mayenne, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils travaillent dans des établissements privés ou que ce soit des professionnels libéraux. Ils ont été également ajoutés à ces soignants les professionnels qui travaillent dans les services d'aide à domicile et les sapeurs-pompiers.
Pour le centre hospitalier de Laval, tout confondu, personnel médical et personnel non médical, nous avons un effectif potentiel de 681 professionnels. Bah, les soignants en première intention, effectivement, c'est ceux qui sont en première ligne. Et pour permettre la continuité des soins, c'est une des priorités à accorder sur la vaccination, à la fois pour garantir la prévention du risque de transmission, à la fois auprès des patients, mais aussi, bien sûr, auprès des proches aussi. Donc, c'est un public qui reste forcément prioritaire. C'est le même principe que la vaccination qu'on retrouve aussi sur la grippe.
De nouvelles commandes de vaccins seront évidemment faites au fur et à mesure. Les particuliers, eux, vont devoir attendre encore un peu pour que ce soit leur tour. Une entreprise innovante accompagnée à Laval par Laval Mayenne Technopole pour faciliter l'organisation de matchs interclubs et pourquoi pas interéquipes. Nous allons découvrir ce projet juste après cette petite pause musicale assurée par Arctic Monkeys avec One Point Perspective.
Dance in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought.
Arctic Monkeys avec leur morceau Wine Point Perspective. Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Une start-up du programme French Tech Tremplin est accueillie à Laval. Il s'agit d'un match. C'est donc le nom de cette entreprise, créée par l'entrepreneur Mouti Ousseni. Il bénéficiera de 30 000 euros pour mener à bien son projet et le développer, et d'une année d'accompagnement à l'incubateur de start-up de Laval Mayenne Métropole. Il nous explique son projet.
Je m'appelle Mouti Ousseni, donc j'ai 35 ans, je suis né à Paris, donc je viens de la région parisienne, et j'ai donc fondé, ou je vais fonder plutôt le concept et la société Un Match, qui permettra d'organiser de façon un peu plus moderne des compétitions sportives. Et c'est avec ce projet-là qu'on a été reçu donc à la French Tech et maintenant au LMT, donc en Mayenne.
Alors justement, ce projet Un Match, est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors Un Match, c'est un concept qui est assez simple. On veut simplement permettre à des entraîneurs ou des capitaines d'équipe de se rencontrer très facilement via une application. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'organisation de matchs se fait essentiellement par des échanges sur SMS, par SMS ou par des échanges par mail. Ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille ou le réseau. Et nous, on veut permettre vraiment à tout le monde d'accéder à des contacts et d'organiser facilement des matchs via des disponibilités, des agendas et la proximité en fait par rapport aux équipes.
Donc l'idée, j'imagine, c'est aussi de pouvoir jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout.
Alors non, ça c'est un concept qu'on a déjà créé qui s'appelle 5-to-play, qu'on a créé justement en 2014. Alors il faut savoir que par rapport à mon parcours, aujourd'hui je vais intégrer l'incubateur donc LMT, mais j'avais déjà présenté un premier concept en 2014 et j'avais participé donc au programme Isénergie. J'avais fait partie des 8 lauréats qui avaient été retenus pour être accompagnés pendant un an. Et en effet, le concept que j'avais proposé à l'époque, c'était justement ça. C'était de permettre à tout le monde de participer à des matchs sans avoir d'équipe, sans avoir forcément d'amis disponibles. Ce concept-là, il s'appelait 5-to-play. Il a bien fonctionné pendant jusqu'à présent. Ça fait 5, 6, 7 ans maintenant. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est pas ça. On ne propose pas à des joueurs de rejoindre des équipes. On propose vraiment à des équipes qui sont déjà structurées. Donc, vous pouvez même, pour faire simple, penser à des capitaines, à des entraîneurs de clubs qui sont... peut-être le club de Laval catégorie U15 ou le club de Boulogne catégorie U14. Voilà, l'idée c'est de permettre à ces entraîneurs-là de s'organiser simplement entre eux, donc ça concerne pas les joueurs, ça ne concerne que les entraîneurs, de s'organiser pour trouver facilement d'autres équipes, puisque les entraîneurs sont responsables d'équipes, d'autres entraîneurs, d'autres équipes disponibles pour participer donc à un match amical. Voilà l'idée. On peut après l'adapter bien sûr au foot loisir, et donc là on sortirait des clubs, mais on peut l'adapter donc au foot à 5, à ce que vous appelez foot loisir, et là ça concernera pas forcément les entraîneurs parce qu'il n'y a pas forcément d'entraîneurs, mais ça concernera les capitaines d'équipe qui pourront eux aussi s'organiser pour organiser des matchs.
Donc oui, là effectivement on est vraiment plus sur le côté organisation de rencontres, de compétitions. Comment ça vous est venu cette idée? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce besoin là?
Alors l'idée m'est venue, comme je vous l'ai dit, de ma première expérience donc par rapport à 5-to-play, qui était déjà un concept innovateur, puisqu'on permettait à des joueurs seuls, qui étaient isolés, on leur permettait de participer à des matchs sans avoir de licence, sans avoir de coach. Voilà, c'était eux qui décidaient de jouer, ils avaient simplement à télécharger une application, donc qui s'appelait 5-to-play, et à réserver leur place dans cette équipe. C'était un modèle déjà très innovant, très simple. Qui permettait à tout le monde de rejoindre une équipe sans aucune condition. C'était déjà un bon premier point. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est un concept qu'on a développé dans toutes les deux France. On a travaillé avec des marques comme Adidas, comme Red Bull, comme Le Fab, comme Urban Soccer. Voilà, on était partenaire de toutes ces marques. On a su faire jouer plus de 5000 joueurs pendant 5 ans. Et à force de travailler donc sur ce projet-là, eh bien, l'idée m'est venue de faire quelque chose d'un peu plus grand, on va dire, et donc de proposer, de voir au-delà du simple joueur, mais de voir la problématique qui était maintenant pas celle d'un joueur, mais celle d'une équipe, celle d'un capitaine. Et c'est de là qu'il m'est venue cette idée-là, à force de comprendre les problématiques en fait des capitaines et des entraîneurs, qui n'étaient plus simplement dans la recherche de joueurs, mais maintenant dans la recherche de matchs. Ce qui est compliqué en ce moment pour des capitaines, c'est pas forcément de compléter leurs équipes, puisque le réseau commence à se faire et qu'il y a déjà des applications qui sont assez même assez matures sur ce sujet et qui permettent aussi de compléter des équipes. Mais là, l'autre problème auquel il faut répondre, c'est maintenant trouver facilement, je dis bien facilement, puisque jusqu'à présent on se débrouille, hein, mais trouver facilement des adversaires de son niveau à côté de chez soi, ou pas, mais au moins d'avoir le choix.
Et donc là, dans votre projet, justement, vous en êtes où plus concrètement ?
Alors, on est en train de conceptualiser l'application et en vue de la développer, puisque l'objectif, c'est de proposer quelque chose très rapidement pour le déconfinement, on va dire. Donc, j'espère que très rapidement, d'ici 2021, on pourra proposer une première version, une première application qui pourra être testée en Ile-de-France, dans un premier temps, sur des catégories bien ciblées, avec des coachs avec lesquels on a déjà travaillé et avec qui on travaillera sur ces projets.
Il y aura une première phase de test, oui, normalement, on va dire mi-2021.
Oui, bah même j'espère bien avant. Mais oui, l'objectif c'est qu'on puisse vraiment sortir une phase de test, puisqu'on a l'idée, on a déjà, c'est pas une idée simplement qui est personnelle, c'est une idée aussi qui a été partagée puisqu'on a échangé avec pas mal de coachs, pas mal de capitaines, pas mal de structures, d'organisateurs. Et donc, la problématique, on la connaît, ça y est, elle est identifiée. Maintenant, il faut réussir à proposer une application qui sera fonctionnelle, avec laquelle les gens trouveront un sens pour l'utiliser. Ça, c'est le plus dur.
Et donc, justement, vous avez déjà conçu une appli. Bon, c'était pas la même. Mais du coup, par rapport à votre parcours, votre expérience, là, qu'est-ce qui pourrait vous manquer pour, justement, arriver à finaliser ce nouveau projet ?
Alors, par rapport à la première expérience, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on intègre la French Tech et on a d'autres ressources. Financièrement, on aura beaucoup plus de facilité. On aura plus de la marge de manœuvre sera plus grande. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a notre expérience qui maintenant se cumule à 7, 8, 9 ans. Ça, c'est un deuxième point, sachant que moi aussi, j'ai été un sportif de haut niveau, j'ai été formé au PSG, donc j'ai aussi je sais comment fonctionnent les clubs de foot à 11, comment fonctionnent les clubs amateurs et les clubs professionnels. Voilà, c'est tout ça qui, j'espère, nous permettra de. Voilà, je pense qu'on a à peu près tous les ingrédients pour réussir notre première, vraiment notre objectif, qui est de réussir un premier MVP vraiment fonctionnel et qui soit tout de suite. Utile pour les coachs et les capitaines d'équipe.
Dans ce but, Mouti Ousseini sera donc accompagné entre autres par Antoine Tétard, le responsable de l'incubateur de start-up de Laval Mayenne Technopole, précise justement l'intérêt du dispositif national.
French Tech Tremplin, c'est un programme national. Hein. Donc il y a quelques mois un appel à manifestation finalement d'intérêt pour voir certains incubateurs qui souhaitent être partenaires de cette opération nationale. Donc Laval Mayenne Technopole a candidaté en tant qu'incubateur partenaire et a été lauréat durant l'été de ce programme-là. Donc on est maintenant incubateur partenaire de la French Tech Tremplin. Et French Tech Tremplin donc est un outil a fait un constat finalement que malgré il y a plein de potentiel d'entrepreneurs, mais il y a aussi souvent beaucoup de freins et des obstacles, je dirais, socio-économiques qui empêchent certains entrepreneurs de se lancer. Donc ça va être des réseaux limités, des financements limités, des formations limitées. Et donc pour résoudre finalement cette problématique et rendre plus accessible l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat innovant, French Tech Tremplin a finalement lancé cette initiative qui va permettre à un certain nombre de lauréats de pouvoir obtenir à la fois un financement pour lancer leur société et aussi un accompagnement gratuit de la part d'un incubateur partenaire pendant un an. Alors les lauréats, bien sûr, il y avait quand même des conditions finalement pour pouvoir prétendre à postuler à ce dispositif, qui étaient des conditions notamment finalement de difficultés socio-économiques. Donc il fallait répondre à certains critères, comme par exemple avoir des revenus, être au RSA, résider dans une zone géographique particulière, etc. Donc voilà tout un tas de je dirais, de populations qu'on peut se sentir défavorisées finalement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un tas de candidatures qui ont été déposées entre septembre et octobre dernier. Et donc quelques lauréats, dont Mouti Ousni, qui avait candidaté à French Tech Tremplin en choisissant Laval Mayenne Technopole comme incubateur partenaire finalement pour l'accompagner ensuite dans son projet.
Pourquoi justement avoir choisi le projet Un Match ?
Pourquoi on a choisi Un Match et pourquoi Mouti a su finalement nous convaincre ? Alors déjà Mouti est quelqu'un qu'on avait déjà rencontré il y a quelques années. C'est pas un inconnu des services de Laval Mayenne Technopole parce qu'on l'avait déjà on l'a déjà connu il y a quelques années au titre d'un autre projet qu'il avait en tête. Donc on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Et je pense que dans un projet de création et de lancement d'entreprise, finalement, ce qui nous, au-delà de l'aspect marché et du cœur du projet, ce qui nous intéresse le plus, c'est de vraiment voir aussi la motivation et le caractère finalement de l'entrepreneur. Et là, je pense que Mouti est un personnage, je dirais, assez hors du commun, qui a fait l'unanimité du jury, qui a su embarquer aussi ce comité-là dans son projet. Et je pense que ça fait une vraie différence, au-delà de finalement l'alignement aussi entre lui, comme et entrepreneur, et son projet. Il y a vraiment un alignement finalement des planètes qui se fait. Et donc on se dit vraiment, tiens, ça c'est quelqu'un qui est complètement fait pour entreprendre et qui en plus est vraiment aligné avec ce qu'il veut faire dans l'entrepreneuriat, quoi.
L'accompagnement devrait commencer à partir du mois de janvier. Comment ça va se passer concrètement ?
Donc là, il va devoir, parce que c'est pas encore le cas, créer sa société. Donc là, on a déjà une petite étape administrative à régler pour qu'il puisse établir sa société et y mettre le siège social justement à Laval et d'ailleurs dans nos bureaux à Laval Mayenne Technopole. Et ensuite, il va rentrer finalement dans le cadre assez classique d'accompagnement d'entreprises qu'on peut faire quotidiennement dans l'incubateur, hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a 32 sociétés incubées au sein de Laval Mayenne Technopole. Finalement, Mouti sera et sa société sera la 33e société. Il bénéficiera finalement de l'ensemble des services et des accompagnements qu'on a l'habitude de prodiguer à toutes ces sociétés-là, hein. Il ne va pas avoir forcément un traitement, je dirais, particulier. Nous, on a trois modules et trois axes principaux d'accompagnement. La première chose, c'est du coaching, des rendez-vous individuels avec les entrepreneurs que nous accompagnons pour fixer ensemble des objectifs pour le lancement et le développement de leur société et mettre en place finalement des actions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on est un peu un genre de bras droit des dirigeants que nous accompagnons et organiser aussi des comités stratégiques de manière trimestrielle, par exemple, pour prendre un peu de hauteur et se fixer des caps stratégiques. Donc ça, c'est le premier module de l'accompagnement, c'est l'accompagnement, vraiment le coaching. Le deuxième axe sur lequel il va pouvoir travailler, c'est sur tout ce qui est contenu et formation. Donc on propose, nous, de la formation à l'entrepreneuriat et au métier d'entrepreneur, parce qu'il faut être vraiment... C'est un couteau suisse, donc il faut avoir des notions de commercial, de finance, etc. etc. Donc voilà, on propose des formations aux entrepreneurs de l'incubateur. Donc Mouti aura accès finalement aussi à ces formations-là et au contenu qu'on délivre. Et le troisième axe finalement, c'est tout ce qui est mise en relation. Parce qu'un entrepreneur, au début, il est souvent un peu seul. Donc là, maintenant, il est accompagné par une structure comme Laval Mayenne Technopole. Et notre rôle aussi, ça va être de le mettre en relation et de faciliter finalement les mises en relation avec tout un tas d'écosystèmes. Donc ça va être le mettre en relation avec des partenaires potentiels, des financeurs, le mettre en relation avec des clients aussi potentiels pour son projet et pour son produit. Donc voilà, c'est faciliter finalement les mises en relation et notamment les mises en relation territoriales sur le territoire.
Donc là, ça va durer jusqu'à décembre 2021, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait.
Et ensuite, après, l'idée, c'est qu'il s'envole de ses propres ailes ou justement qu'il reste après, mais du coup, que ce soit à sa charge, cet accompagnement, comment ça pourrait se passer ?
On a un accompagnement, en tout cas au niveau de l'incubateur, qui se limite aux premières années de la création de l'entreprise, pour les aider à décoller finalement. À la fin de cette année, les autres sociétés de l'incubateur ont signé des conventions d'accompagnement de 2 à 5 ans. Là, en l'occurrence, Mouti, il y a une année qui est entièrement prise en charge via le programme French Tech Tremplin. Bien entendu, si la société a commencé un lancement et un développement intéressant durant cette première année-là, on fera tout pour continuer ensemble et continuer à l'accompagner au moins pour l'année 2022, afin de faire fructifier finalement cette entreprise sur le territoire mayennais, quoi.
Au total, par Laval Mayenne Technopole, 33 startups bénéficient donc de son accompagnement. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter The Limbos.
Give a damn. Let me warn you, Herman man, don't be your business next to mine. Say I didn't tell you so. You better pack your things and go. You've been so long, it's in the back door. Can't you see I got your eyes? Let me warn you, Herman man, don't be your business next to mine. Business next to mine.
L'agité du local sur l'autre radio. Et comme chaque mercredi, Soizic revient avec une chronique d'actualité sur des thèmes sociaux, économiques, voire politiques. Et oui, tout est un peu lié. Ça s'appelle Un autre écho de l'écho et c'est tout de suite. Bonjour Soizic, on vous retrouve comme tous les jours, mais pas pour votre chronique habituelle, cette fois-ci pas pour des objets pour un monde, mais plutôt pour un autre écho de l'écho, et où on parle aujourd'hui de la Chine qui fait les yeux doux à l'Europe.
Et oui, bonjour Marie. En effet, le 30 décembre dernier, un accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine a été conclu après 7 années de pourparlers. Alors là, il ne s'agit pas de réguler les flux de produits, mais plutôt de réglementer les entreprises chinoises installées dans l'Union européenne et les entreprises européennes installées en Chine. Alors, quels bénéfices peut-on attendre de cet accord? Eh bien, pour l'Union européenne, il s'agit, je cite, « d'un accès sans précédent des entreprises européennes au marché chinois, ce qui va permettre une, je cite encore, égalité des conditions de marché ». Alors, si cet accord est censé favoriser une égalité de marché, je me dis que c'est donc jusqu'ici, ça n'en a pas été le cas. Et là, Marie, vous me dites…
Ah bon, mais pourquoi n'était-ce pas égalitaire ?
Eh bien oui, c'est curieux, n'est-ce pas? Alors, en effet, il y a quand même certaines choses qui sont assez surprenantes dans les traités qui ont préalablement été signés entre l'Union européenne et la Chine. Je vous explique. Par exemple, ce traité doit interdire les transferts de technologies forcés. En effet, jusqu'alors, quand une entreprise de haute technologie voulait s'implanter en Chine, il lui était obligatoire d'employer des salariés chinois de façon à ce que ceux-ci s'imprègnent de ces technologies et les transfèrent dans les entreprises chinoises. Ça vous paraît incroyable? Sauf que tous les pays occidentaux se sont pliés à cette demande de la part de la Chine, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis. D'autre part, les marchés publics européens sont entièrement ouverts à l'international, l'Union européenne étant farouchement attachée à un libre-échange absolu. En revanche, la Chine, elle, verrouille sans complexe l'accès à ces appels d'offres nationaux. C'est pour ça que, par exemple, en Chine, enfin, pardon, la Chine a racheté le port du Pirée en Grèce ou l'aéroport de Toulouse, mais ça aurait été strictement impossible dans le sens inverse, c'est-à-dire que ni l'Union européenne ni les États-Unis ne peuvent acheter quelque investissement national, que ce soit chinois. Vous comprenez bien, Marie, qu'il était temps d'égaliser les conditions de marché. Alors, toujours aussi bizarre, le dogme européen pour le libre-marché empêche les pays de subventionner leurs entreprises, ça pour éviter la concurrence déloyale. En revanche, les subventions ne sont absolument pas interdites en Chine, et vous comprenez bien que le Parti communiste chinois, qui a la mainmise sur l'économie, ne s'en est absolument pas privé. Alors, pourquoi les États-Unis et l'Union européenne ont-ils toléré de telles distorsions de concurrence? Eh bien, ça, c'est un mystère, Marie. Alors, à moins de considérer comme aveuglant le dogmatisme européen sur les bienfaits du libre-échange absolu, et ça, je sais de source sûre que c'est le cas, ou alors avoir pris les Chinois pour plus naïfs qu'ils ne sont, et je pense que ça y joue aussi. Alors, si cet accord met fin aux privilèges chinois, on peut se poser la question des intérêts de la Chine dans un tel accord. Après tout, ils dominaient, comment ça se fait qu'ils ont accepté finalement des restrictions à leur commerce international? Ben là encore, c'est très confus. Alors, surtout si l'on se souvient qu'en 2015, Pékin adopte la stratégie, je cite, Made in China 2025. Avec cette stratégie, il s'agit d'assurer à la Chine un leadership technologique et une autonomie dans 10 secteurs industriels clés, comme l'aéronautique et le spatial, les trains à grande vitesse ou la mobilité électrique. Dans ces secteurs, les innovations chinoises, encouragées par les subventions de l'État, devront à terme remplacer les importations de l'étranger, a décidé Pékin. Il semble donc clair que la Chine se soucie du libre-échange avec le reste du monde, mais comme d'une guigne. Alors, on peut se poser la question, la Chine ferait-elle quelques concessions pour mieux pénétrer le marché européen? Eh bien, rappelons-nous, là encore, le discours du président chinois devant l'ONU le 22 septembre dernier. Il y défendait, mais sans rire, le multilatéralisme, la coopération internationale, l'aide aux pays en voie de développement et la protection de l'environnement. Et c'est là, je crois, qu'on voit bien la stratégie de Xi Jinping. Il veut se poser en anti-Donald Trump. Concéder quelques miettes réglementaires aux vieux pays industrialisés pour mieux s'imposer comme nouveau phare de la mondialisation et finalement retrouver la place qu'occupait la Chine jusqu'au XIXe siècle. Sachant que la Chine pourrait devenir la première puissance économique mondiale en 2025, voilà ce qui est, à mon avis, bien plus éclairant sur les intentions de Pékin. Alors, quant aux intérêts de l'Union européenne, ils sont clairs. Il s'agit surtout de soutenir les exportations allemandes d'automobiles, de machines-outils et de chimie vers la Chine. D'ailleurs, la signature express de cet accord a surtout été l'initiative d'Angela Merkel. Alors, on voit bien, hein, quelle importance que la Chine soit à l'origine du coronavirus, quelle importance qu'elle bafoue les droits de l'homme à Hong Kong ou pour 750 000 Ouïghours, qu'elle envahisse le Tibet, qu'elle rachète petit à petit l'Afrique, qu'elle tienne des discours contradictoires et tisse une toile mondiale par le renouveau des routes de la soie. Peu importe que la mondialisation contribue dramatiquement à la crise écologique, business is business. Souhaitons simplement que la petite Europe perde de son ego pour se rendre compte, comme le disait Alain Perfitte, que la Chine s'est bel et bien éveillée et que nous devrions bien et bien nous mettre à trembler.
Merci beaucoup, Soizic. Vous serez de retour demain à l'antenne, évidemment, pour une autre chronique des objets pour un monde. Et puis cette semaine, on continue d'explorer la réserve du Musée des sciences de Laval avec Roch-Alexandre Benoît, l'assistant de conservation du patrimoine au Musée des sciences, bien sûr. Plus de la moitié de la collection, on en a parlé hier, ce sont des fossiles, mais plusieurs techniques existent pour connaître leur époque. Écoutez.
Le groupe ammonite en soi, ça a une grande durée d'existence. Chaque espèce, après, justement, ça va être... ça dépend vraiment des espèces. Mais il y en a qui vont descendre jusqu'à, globalement, 100 000 ans d'existence. Ce qui, en soi, est très court. Nous, par exemple, en tant qu'Homo sapiens, ça fait 200 000 ans qu'on est là. Il y a plein d'espèces où ça tourne autour d'un million d'années, on va dire, en gros. Donc, là, 100 000 ans, ça fait très très court pour une espèce, finalement. Mais au moins, voilà, ça permet d'avoir une idée très précise, en fait, de la tranche d'âge dans laquelle on est. Ça peut servir pour les autres fossiles. Globalement, ceux qu'on va retrouver, en fait, dans la même couche, on sait qu'ils vont être à peu près du même âge. Si on retrouve des fossiles dans une couche un peu au-dessus, on sait que, globalement, ils vont être un peu plus récents. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la datation relative, hein, pour le coup. Après, il y a d'autres moyens de dater de manière plus absolue, mais ça va être plutôt des méthodes chimiques, on va dire. Donc, comme je disais, il y a datation relative, datation absolue. Il y avait beaucoup de choses où c'était que des estimations, notamment sur le côté relatif. Donc c'était, on trouvait telle espèce dans telle couche et une autre espèce dans la couche au-dessus. Donc on sait que celui qui est dans la couche en dessous est plus ancien que celui dans la couche au-dessus. Vraiment par logique pure. Mais on n'avait pas forcément de date. Et en fait, il y a des méthodes en fait, qui ont permis, justement en faisant des petits forages dans certaines des couches, et ensuite en faisant... là c'est un peu plus compliqué, mais en gros c'est avec des isotopes en fait radioactifs qui vont se décomposer à une certaine vitesse, et du coup selon la quantité d'isotopes qu'il va y avoir en fait dans cette couche là, on peut déterminer plus ou moins l'âge en fait que ça a mis, le temps que ça a mis pour se dégrader, et du coup dire vraiment un âge chiffré en fait pour cette couche là. Donc du coup quand on a des couches où on connaît les fossiles, on sait qu'ils sont que dans cette couche là, et où il y a eu une datation absolue en plus, on peut donner un âge entre guillemets précis pour les fossiles qui sont dedans. Donc si on retrouve ces fossiles-là ailleurs dans le monde, qu'on reconnaît vraiment la couche en elle-même, on sait que ça aura plus ou moins le même âge. Après, justement, si on peut, on fait toujours le côté datation absolue. Mais c'est vrai que c'est un peu plus coûteux que de la datation relative. On essaie d'avoir toutes les informations qu'on peut. Si on a vraiment identifié l'espèce, on a une petite chance de retrouver au moins l'âge. Après, on n'a pas toujours les localités. Mais dans la grande majorité des cas, on l'a quand même. Donc on sait d'où ça vient, quel âge ça a, quelle espèce c'est. Alors quelquefois, il faut remettre un peu à jour, parce que les noms sont plus toujours les mêmes utilisés maintenant. Mais voilà, il y a tout ce petit travail-là que nous, on va faire après, une fois qu'on a la pièce sous les yeux. Et quand on n'a pas les informations, bah, on note aussi qu'on n'a pas les informations. Et si on peut, on fait appel à des spécialistes qui, eux, vont venir en fait voir les collections, et qui, quelquefois, ont des connaissances que nous, on n'a pas du tout sur un groupe donné, et où ils vont être capables, en fait, rien qu'en voyant la composition du fossile, le type de roche qui va le composer, la couleur que ça va avoir, de dire d'où ça vient. Donc ça c'est quelque chose qui est assez dur à faire, mais il y a quelques personnes qui sont capables de le faire selon les groupes.
Et demain, on s'intéresse aux fossiles un petit peu moins répandus, mais qui existent tout de même, les fossiles de végétaux. Et on termine cette émission comme d'habitude avec notre rubrique initiative avec toi Claire, où on parle du club de basket Sud-Mayenne qui devient numérique.
Et oui, en effet, le club s'est lancé dans une émission en ligne, Buzzer Time, pour garder le lien avec ses licenciés. Au programme, un live de 40 minutes sur Instagram avec des infos, des jeux et surtout des entretiens avec des invités, comme dimanche dernier avec Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération française de basket. Le tout est présenté par un des éducateurs du club, Steven Trouillet, qui pour lui, c'est ce qui lui a permis de garder ses licenciés connectés et toujours inscrits. Les émissions Buzzer Time sont à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Steven Trouillet, donc T-R-O-U-I-2-L-E-T.
Merci beaucoup Claire pour cette précision. Pas de chaîne YouTube encore pour l'autre radio, qui sait, ça viendra peut-être, mais un compte Twitter et un compte Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos actualités et n'hésitez pas à laisser vos initiatives sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Merci beaucoup Claire, c'est déjà la fin de notre émission L'AGT du local. À demain.
À demain tout le monde.
Et puis évidemment, à suivre à l'antenne à 19h, Novorama, et puis qui sera suivi à 21h de Chaosphère, la première émission de l'année. Et puis nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.